C'est ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique. Au programme, je vais vous parler de Alhambra Red Palace. C'est une réédition, mais c'est aussi en même temps un nouveau jeu. On aura aussi en fin d'émission Copla pour On y rejoue, on n'y rejoue pas un an après. Et tout de suite, comme tous les jeudis matin, c'est Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes qu'on retrouve pour Dans le Rétro. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de petits jeux.
Oui, j'ai eu le sentiment de parler de choses un peu de gros jeux ces derniers temps. Donc là, j'ai pris une sélection de trois jeux rigolos dans notre rayon d'ambiance, donc des choses plus ou moins anciennes, des choses plus ou moins connues. Ouais. Alors je voulais vous parler d'abord d'une, pour moi, une grande référence du jeu rigolo, un peu familial, qu'on peut sortir entre adultes ou avec des plus jeunes. Très connu, c'est Mytho, Emily et Lucas Brandt. Alors on est dans la gamme là de l'éditeur Dreimage Gierspiele, la gamme des sales bestioles là, il y en avait un autre qui était très connu.
Le poker cafard.
C'était le poker des cafards.
Ouais, c'est ça.
Maintenant Mytho est le plus célèbre de la gamme, parce que Mytho est un jeu qui fonctionne énormément. Donc la base est très simple, on est sur un jeu de défausse, comme le 8 américain ou le Uno. Le but c'est de se débarrasser de ses cartes. Mm. Avec un système très bateau, voilà, c'est à mon tour je joue une carte de ma main qui doit être le chiffre juste au-dessus ou juste en dessous de la carte d'avant. Donc s'il y a un 2 sur la défausse, je peux jouer un 1 ou un 3. Bon, c'est pas très rigolo, on essaie de bien jouer de ses cartes et de se débarrasser.
Ouais.
Donc la première chose rigolote du jeu, c'est que les cartes, bon déjà dessus il y a des dessins de sales bestioles dégoûtantes, moi j'aime pas les insectes, donc je trouve ça vraiment crado, sur les cartes, qui font des effets débiles. Par exemple, quand je joue une fourmi, tout le monde pioche une carte. Quand je joue un moustique, tout le monde doit essayer de l'écraser rapidement. Le plus lent, il ramassera des cartes aussi. Donc voilà des petits côtés un peu petits jeux d'action comme ça, rapides et rigolos. Alors c'est pas vraiment ça qui fait le sel du jeu. Ce qui fait le sel du jeu, c'est que Mathieu, moi j'ai le droit de tricher. Voilà, j'ai le droit de jeter des cartes par terre, en jouer plusieurs en même temps, en jeter une à travers la pièce par-dessus mon épaule. Et puis il y a pas que moi qui ai le droit de tricher, hein. Les autres aussi ils trichent, ils arrêtent pas de mettre les cartes dans leur poche, tout ça. Sauf toi Mathieu, toi tu nous surveilles, t'as pas le droit de tricher.
Ouais.
Toi t'es le garant du bon droit, hein, qui fait en sorte que personne ne triche. Donc tu vas nous regarder en permanence, vérifier qu'on ne triche pas. Et si tu nous chopes, le joueur qui a triché devient le nouveau gardien et donc extrêmement pénalisé parce que il faudra qu'il joue ses cartes normalement et qu'il arrête de tricher. Il y a un côté très rigolo comme ça, un peu on casse ce tabou de la triche qui est très drôle, et puis ça fait un jeu un peu, on essaye d'être furtif, de se débarrasser de ses cartes, c'est très rigolo.
Ouais. Ah ouais, non, franchement très très bien Mytho.
Ouais, si y a des gens qui n'y ont pas joué, ça s'essaye une fois dans sa vie, ça dure 5 minutes et tout le monde se marre. Je voulais vous parler d'un autre jeu rigolo un petit peu plus récent et peut-être un peu moins connu, c'est Picto Rush de Edward Chan.
Ouais.
Picto Rush, on est dans du jeu de dessin. Alors, le jeu de dessin, ça fait rigoler, mais ça fait peur aussi parce que des gens, ils sont là, ouais, mais moi, je sais pas dessiner.
C'est ça,
je vais avoir l'air bête. Alors là, le jeu, il balaye ça totalement. C'est pas du tout le propos du jeu de bien dessiner, au contraire. Chaque joueur va recevoir une petite feuille blanche avec 20 cases dessus. Sauf un joueur qui, lui, va avoir une liste de 20 mots. Il va nous lire ces 20 mots et dans chacune de nos cases, on dessine un dessin en lien avec le mot. Hein. Donc, il va nous dire patate, je dessine patate, mobilette, je dessine une mobilette, etc. Le problème, c'est qu'il ne va pas du tout les dire comme ça. Il va dire patate, mobilette, tableau, neige, arbre. Et là, c'est un peu la panique pour dessiner tout ça. Donc, vous allez faire des dessins vraiment, mais des choses pas belles du tout. Et une fois qu'il a fini de lire ces 20 mots, il n'y a plus le droit de dessiner. Et là, c'est l'interrogatoire. Il va demander, Mathieu, c'était quoi le mot numéro 7 ?
Ouais.
Et là, t'es bête avec ton truc tout
moche. Juste un trait.
C'était une mobilette. Et puis là, un autre joueur peut taper sur la sonnette pour dire, mais non, c'était une patate, et marquer des points. Donc, Picto Rush, là, vous savez déjà y jouer parce que je vous ai expliqué toutes les règles. C'est super simple. Et faut aimer les jeux très frénétiques, un peu comme Tides Up, quoi. C'est très, très speed et ça met la pression.
Ah, mais oui, c'est clair, parce que des fois, tu fais juste un trait parce que tu penses déjà au mot suivant. Enfin, bon, C'est très compliqué.
Des fois, tu sautes même des cases.
Ouais.
Tu en es. C'est la panique totale et c'est drôle. Donc, Mytho et Picto Rush, on est sur des jeux. À nous, c'est une chose auquel on réfléchit pas mal dans nos conseils, qui sont pas très investissants. D'ailleurs, vous allez pouvoir le sortir facilement à partir de quelques joueurs en expliquant peu de règles. Donc, c'est facile de se l'approprier. Le troisième dont je voulais vous parler, il est un petit peu plus dur à sortir. Moi, c'est un gros coup de cœur personnel. C'est Two Rooms and a Boom.
Ouais.
Désolé pour l'anglais.
Faut du monde
Alan
déjà.
Gerding et Sean McCoy. Donc là, on est déjà sur du jeu de bluff. Donc
il
faut aimer un petit peu ça. On est vraiment dans la veine du loup-garou, du time bomb, de ce genre de choses. Hein. On va incarner un rôle secret.
Faut être nombreux, surtout là, pour jouer.
Et voilà, ouais, c'est ça. Et on est dans cette veine-là du rôle secret de je ne sais pas qui sont mes copains et les méchants autour de la table, entre guillemets. Et la difficulté première du jeu, bah, c'est qu'il faudra être une dizaine de joueurs pour pouvoir jouer. Ouais. Ça peut monter jusqu'à 30. Alors ça, moi, j'ai pas encore fait, mais j'imagine que ça doit être exceptionnel.
On a fait à 15 déjà, nous, c'est déjà pas mal, 15.
Voilà, moi, j'ai fait des parties à 10, à 15. C'est vraiment génial. Donc, c'est un jeu, bah, moi, que j'aime beaucoup, mais j'y ai très peu joué. J'ai dû y jouer une dizaine de parties parce que, bah, effectivement, je suis pas tous les soirs
oui.
15 à la maison.
C'est clair.
Mais le concept est génial. Vous allez tous avoir un rôle secret que vous pouvez glisser dans votre poche ou garder discrètement dans votre main. Et en plus de ça, il va vous falloir deux pièces. Vous allez mettre la moitié des joueurs dans une pièce, l'autre moitié dans une autre pièce, donc tu ne sais pas ce qui se passe dans l'autre pièce. On chronomètre, on lance un chrono, et tout le monde discute pour essayer de savoir qui est quoi, est-ce que tu es mon copain, qu'est-ce que tu fais là, etc. Donc ça blablate dans tous les sens pour essayer de retrouver ses alliés, trouver ses ennemis. Une fois que le temps est passé, il y a un chef dans chaque salle qui va virer quelqu'un de sa pièce et l'envoyer dans l'autre salle. Donc une sorte d'échange de prisonniers comme entre les salles. Alors ces joueurs, ils sont tout de suite agressés. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans l'autre salle? Vous dites quoi? Qui c'est qui est sympa? Tout ça. Et au bout de trois manches comme ça, bah il y a, alors le thème est un peu tendancieux, il y a un joueur en fait qui était un terroriste qui se fait exploser. Et s'il était dans la même salle que le président, bah, les méchants ont gagné. Donc le but du jeu pour les méchants, bah, c'est de faire en sorte que le président et le terroriste soient dans la même salle. Et le but du jeu pour les gentils, c'est d'éviter tout cela. Donc ça, c'est les rôles de base. Et après, comme tout bon jeu du genre, il y a des dizaines de rôles dans la boîte pour varier les parties. Et donc ça met une ambiance totalement dingue, ultra frénétique, ça gueule dans tous les sens. On a en plus le droit de se montrer des cartes si on a confiance aux copains, donc ça devient vite du grand n'importe quoi. Et alors ça sort pas souvent, mais c'est vraiment un jeu à tester.
C'est ça. C'est le souci de ces jeux-là, c'est qu'il faut être nombreux et puis c'est pas tout le temps être évident parce que ils disent que tu peux jouer, je crois, à partir de 6, mais c'est pas drôle à partir de 6. Hein.
Non, il ne faut pas jouer à partir de 6 joueurs, effectivement. J'ai même pas osé essayer, ça ne doit pas être rigolo du tout. Il faut être au moins 10.
Ouais.
Alors après, c'est vrai que bah, c'est la contrainte.
C'est un minimum.
Et de temps en temps, il y a des gens qui cherchent des jeux pour jouer à 30 joueurs. Il n'y en a pas non plus légion.
Non, c'est vrai.
Donc celui-ci permet de jouer très nombreux.
Ouais, ça, tu fais ça à un anniversaire où t'invites du monde là, dans une salle des fêtes. T'as deux salles et hop, c'est parti, quoi.
Ah bah ouais, carrément, ouais. Bah même moi je l'ai sorti dernièrement au Nouvel An, on s'est pas fait qu'une partie quoi.
Mais ouais.
C'est vrai que ça dure 15-20 minutes et puis tu t'enchaînes les parties, tu changes les rôles, t'en profites bien, puis ça fait vraiment une animation forte quoi, ça va marquer la soirée.
Ouais. Très bien, bah merci beaucoup Jonathan, on se retrouve jeudi prochain pour un autre dans le rétro.
Avec plaisir, salut Mathieu.
Salut.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Direction l'Andalousie, aujourd'hui avec la découverte de l'Alhambra, le palais médiéval fortifié de Grenade. Il est l'un des plus hauts lieux d'Espagne, son nom vient de l'arabe Casa Alhambra, ce qui signifie le palais rouge. Voici donc Alhambra, The Red Palace, un jeu de Durkheim, édité par Queen Games et distribué par Atalia. Alors son nom vous dit peut-être quelque chose et c'est normal, car Alhambra, eh bien c'est un jeu multi-récompensé qui fête ses 20 ans. Alors Red Palace n'est pas qu'une réédition, mais une version améliorée, plus stratégique du jeu, avec notamment l'arrivée des gardes, et c'est aussi un jeu plus de lutte, ça va être ses bâtiments en bois. Dans The Red Palace, le but du jeu sera de construire votre palais avec de nombreux bâtiments. Alors au niveau mise en place, vous posez le plateau, hein, c'est là où seront disposées les cartes argent et les tuiles bâtiments. Vous ajouterez aussi le plateau garde, chaque joueur récupère pour commencer une tuile départ avec une fontaine en bois et une tuile de stockage. Voilà, bah vous êtes prêt à jouer. Et comment on joue? Et bien à votre tour, vous aurez une action à faire parmi 3. Prendre de l'argent. Vous pouvez prendre une carte argent parmi celles disponibles sur le plateau de jeu ou bien plusieurs cartes argent si la somme totale de ces cartes ne dépasse pas 5. Par exemple, je peux prendre une carte 9, mais je peux prendre aussi une carte de valeur 2 et une de valeur 3. Autre action, c'est acheter un bâtiment. Alors vous pouvez acheter un des 4 bâtiments présents sur le chantier sur le plateau de jeu, mais attention, il faudra payer la somme indiquée sur la tuile et dans la devise qui se trouve au-dessus de celle-ci. Par exemple, si le bâtiment coûte 7, que vous souhaitez l'acheter, l'argent c'est la devise bleue, le dinar. Pour ce faire, eh bien, il faudra donner des cartes dinar pour se le procurer. Alors attention, le jeu ne rend pas la monnaie. En revanche, si vous arrivez à donner le prix exact avec vos cartes, vous pourrez faire une action supplémentaire. Enfin, la dernière action possible est de réaménager votre Alhambra. Soit en enlevant un bâtiment que vous reposez dans son stockage, soit un bâtiment présent autour de votre tuile stockage que vous placez dans votre Alhambra. Oui, vous pouvez faire aussi un échange entre un bâtiment dans votre stockage et dans votre Alhambra. Enfin, l'une des nouveautés de The Red Palace, eh bien, c'est l'utilisation des gardes et de leurs capacités. Si vous avez acheté l'une des capacités, vous pouvez l'utiliser pendant votre tour. Avant de finir votre tour, vous devez décider si le bâtiment que vous venez d'acheter, hein, si vous le mettez dans votre Alhambra en respectant les règles de placement, les bâtiments doivent avoir la même orientation, le bord d'un bâtiment qui se touche doit être du même type, c'est-à-dire hein, qu'il ne peut pas y avoir un mur entre eux, et le bâtiment doit être posé de façon adjacente et ne doit pas être fermé. On doit pouvoir hein, se promener comme ça dans votre Alhambra sans être bloqué. Vous pouvez préférer mettre votre bâtiment dans votre zone de stockage et vous avez raison. S'il y a des tours de garde sur les tuiles, vous prenez un garde dans la réserve. Enfin, le jeton bâtiment est remplacé par le pion en bois. Alors, votre tour est terminé. Vous réapprovisionnez les bâtiments. Eh bien, au niveau scoring, il y aura 3 décomptes dans la partie qui vont vous permettre de gagner des points par rapport aux majorités de bâtiments présents dans votre Alhambra et le mur qui est le plus grand. En fin de partie, on gagne aussi des points pour le nombre de gardes présents. Alors, faut savoir que le scoring est différent. Ce n'est pas forcément les mêmes bâtiments qui rapportent le plus de points à chaque décompte. Les jardins ne peuvent vous rapporter que 3 points lors de la première manche, alors qu'à la deuxième manche, ils vous feront gagner 10 points si vous êtes le premier. À la première manche, il n'y aura que des points que pour le premier, à la deuxième manche pour les 2 premiers, à la troisième manche pour les 3 premiers. Il existe aussi hein, de nombreuses variantes que je vous laisserai découvrir. The Red Palace est plus profond que son aîné. Les nouvelles tuiles avec les gardes peuvent être utilisées stratégiquement pour des actions bonus intéressantes sur votre plus grand mur. Il vous donne aussi des points bonus pendant le scoring, mais ils peuvent être aussi rejetés hein, pour faire des actions supplémentaires puissantes pendant votre tour. Une bonne rejouabilité hein, pour ce jeu de majorité avec un décompte de points bien particulier puisqu'il sera différent à chaque partie.
C'est ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Et tous les jeudis dans C'est ludique, on retrouve Copla pour On y rejoue ou On n'y rejoue pas. Salut Copla.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, alors déjà on va faire un point sur il y a un an, qu'est-ce que je présentais il y a un an?
Eh bien, il y a un an, Matt, semaine 15, tu nous parlais de 4 jeux puisqu'on tombait en plein pendant le lundi férié.
Ah oui.
Et donc sur cette semaine, tu nous parlais de My City, Evergreen, Verdant et Nymalia.
Mm-hmm.
Alors, dans cette liste qui pour une fois, que je connaissais très bien puisque les 4 jeux, je les ai joués et je les apprécie particulièrement.
D'accord.
Donc c'était pas facile de choisir, mais j'ai quand même décidé de vous parler plus en détail de My City.
My City, alors.
Ouais. Alors, My City, c'est un jeu de Rainer Media, illustré par Michael Menzel et édité chez Yellow.
Mm-hmm.
Alors, My City, c'est un jeu de placement de tuiles polyomino, évolutif, où les joueurs et joueuses construisent et développent leur propre ville au fil de plusieurs parties. Alors, le principe général du jeu, il consiste à piocher tour par tour et jusqu'à épuisement d'une pioche, de la pioche des cartes construction, qui détermine quelle tuile, justement, quel bâtiment vous allez tous et toutes poser sur votre plateau de jeu.
Mmh.
Et votre objectif, eh ben, c'est de les placer au mieux en termes de forme et de couleur pour maximiser vos points de victoire. Et ce qui rend My City pour le moins sympathique, parce que jusque-là, hein, faire du puzzle Tetris, on a connu plus excitant, c'est son aspect évolutif. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de la chose, un jeu évolutif, eh bien, comme son nom l'indique, il va évoluer. C'est
hein
cool. Donc, vous jouez en principe une première partie qui vous apprend la mécanique de base du jeu, mais dès la deuxième, on vient modifier ou bien ajouter de nouvelles règles à votre jeu. Donc, ça signifie par exemple pour My City, sans trop vous spoiler, rassurez-vous, que la règle de pose de tuiles, elle va changer, que les objectifs vont changer, que le comptage de points également, vous obligeant à constamment réadapter votre stratégie pour être bien le meilleur bâtisseur.
Mmh.
Donc, chaque partie n'est pas juste une autre partie, mais bien une nouvelle partie, un nouveau défi.
Nouveau défi, de nouvelles règles.
Voilà. Tout à fait. Le jeu est donc structuré de cette manière sous forme de campagne, divisée en 8 chapitres. Donc vous aurez 8 enveloppes à découvrir pour un total de 24 parties. Il est conçu pour être accessible aux joueurs et joueuses de tout niveau d'expérience. Les règles sont relativement simples à comprendre, mais les enjeux et les décisions stratégiques, qui, elles, deviennent de plus en plus complexes à mesure que cette campagne, elle, progresse. Alors, on peut souligner aussi un très bon équilibrage et très agréable. Une compétition qui ne défavorise jamais un joueur durablement.
Ouais.
Clairement, on a la possibilité de se faire, de se rater sur une ou deux parties. En fait, le gagnant va subir des malus qui vont compenser l'écart de points qu'il est en train de prendre. Et ça renforce vraiment l'envie d'en profiter et de relancer une partie, d'ouvrir une nouvelle enveloppe pour se rattraper. Et les scores, en effet, sont serrés sur la fin de la campagne.
Ouais, c'est ça, parce qu'en plus des nouvelles règles, on modifie les plateaux des joueurs.
Absolument, absolument. Le jeu va finalement devenir asymétrique pour les joueurs. Et donc, My City a généralement été plutôt bien accueilli par le public et les critiques. Il a remporté plusieurs récompenses et a notamment été nommé au prestigieux Spiel des
Jahres
en 2021, salué pour son concept innovant d'évolution de jeu et son accessibilité. Alors, c'est pas un concept nouveau, hein, mais c'est vrai qu'habituellement, les jeux en campagne évolutive, qu'on appelle autrement Legacy, ils sont un petit peu plus longs et costauds, donc ça en freine quand même plus d'un. Alors, pour finir à la question, un an après, est-ce qu'on y rejoue ou pas ? Alors, pour répondre, je vais quand même devoir parler des jeux Legacy dans leur globalité.
Mais oui.
Bien que ces jeux de société évolutifs offrent de nombreux avantages et une expérience de jeu quand même assez unique, ils peuvent également présenter quelques inconvénients. Tels que, l'engagement à plus ou moins long terme. C'est vrai qu'il faut maintenir un intérêt pour les joueurs sur une période prolongée, surtout si le jeu devient répétitif ou prévisible. C'est aussi une contrainte de temps et d'organisation. Clairement, coordonner les horaires de jeu entre plusieurs personnes, c'est souvent un véritable défi, presque plus que le jeu en lui-même. On a une difficulté à intégrer de nouveaux joueurs, même si en principe les jeux le proposent, on sent clairement que c'est pas fait pour et que ça peut devenir compliqué à gérer ou clairement pas optimal. L'irréversibilité des jeux Legacy, puisque souvent on implique des changements permanents dans le jeu, tels que la fameuse ouverture d'enveloppe dont j'ai parlé, la destruction de matériel ou l'écriture sur des cartes. Et c'est vrai que certains sont réticents à modifier de manière vraiment irréversible leur jeu de société, craignant de faire des choix qui pourraient affecter négativement leur expérience de jeu future.
Sachant que...
Sachant que
My City, effectivement, tu modifies ton plateau, mais tu peux jouer sur un autre plateau.
Oui. J'y viendrai sur la fin, mais en effet, c'est un petit, une petite parenthèse. Le point quand même le plus important, je pense, de cette problématique, c'est le manque de rejouabilité. Une fois qu'un jeu Legacy, il est terminé, il est terminé. C'est comme une bonne série. C'était top, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Bien que certaines boîtes Legacy proposent justement des ajustements, dont tu parlais, pour rejouer soit la campagne, soit des parties entre guillemets basiques, comme c'est donc le cas avec My City, puisque ces plateaux sont imprimés des deux côtés. Donc il y a une phase qui vous servira au mode de jeu qu'ils appellent éternité. Je mets des grosses guillemets pour éternité quand même. L'expérience ne sera tout de même jamais tout à fait la même que la première fois, clairement.
Oui.
Donc My City, un an après, pour ces raisons, on n'y rejoue pas. Par contre, clairement, je ne peux vous conseiller que d'y jouer, en fait. Notez également qu'il existe une version Roll and Write, donc pas aussi engageante dans tous les sens du terme, mais pas non plus désagréable. Mais surtout, My Island, la suite très attendue de My City, qui est sortie, en janvier de cette année.
Ouais.
Je vous laisserai donc découvrir.
C'est très bien, aussi.
Pour le petit tip, le petit conseil que je vous donne, My City, faites-le à deux. Parce qu'en fait, le jeu est conçu pour être fait à 4.
Mais oui.
Et tout le matériel est donc... si vous le divisez en 2, vous avez la possibilité de faire 2 fois la campagne à 2. Donc, vous pouvez faire 2 campagnes pour un seul jeu, Legacy. C'est quand même plutôt sympa. Voilà, c'était mon petit conseil.
Très bien. Merci beaucoup, Copla. Et on se retrouve
avec plaisir.
La semaine prochaine.
Ça marche. Bonne journée à tout le monde.
Salut.